Le violon de Job, scène de la vie bréhataise, par Teresa Benson. Chapitre 1er. Il est impossible de méconnaître les liens mystérieux qui unissent la nature à l'homme, l'étrange ressemblance qui existe entre ce dernier et le sol qui la nourrit, ni par conséquent la banalité qui envahit les caractères à mesure que chaque pays s'ouvre aux empiétements de la civilisation. Les intelligences sont nivelées comme les grandes routes. Les mœurs primitives s'effacent avec les précipices et les ravins. Un langage commun prend la place de ces idiotismes pittoresques, singulièrement propres à exprimer les goûts, l'esprit, le type moral, pour ainsi dire, de la race qui se les est transmis de siècle en siècle. Légendes et traditions, pareilles aux fantômes de la nuit que disperse l'aurore, s'évanouissent, épouvantées par le sifflement de la vapeur, les lumières de la science, le fracas de l'industrie. C'est le progrès, sans doute, et il faut le saluer comme tout ce qui nous rapproche du règne de la vérité. Mais le poète cependant assiste avec tristesse à cette fuite des dieux du passé, tandis que l'observateur étudie curieusement les transformations qui s'ensuivent. Je veux peindre les rudes vertus, les passions énergiques, les inébranlables croyances qui germent encore dans certaines terres vierges, et mon récit, tout vrai qu'il soit, ne paraîtra vraisemblable que si j'en fais d'abord connaître le théâtre. L'île Bréa ferme du côté de l'ouest la baie de Saint-Brieuc et menace les navires comme l'un des écueils les plus terribles que présentent ces côtes déchiquetées quand elle ne disparaît pas dans de pâles brouillards. Ses voiles de brume blanchâtre ont un aspect fantastique. En se déchirant, il laisse entrevoir un réseau de pointes aiguës d'où, à marée basse, se détachent des promontoires qui s'étendent au loin comme les pattes crochues d'un animal monstrueux, susceptible de changer de forme à tout instant, selon les jeux de l'océan dont il paraît être un mirage. La mer le ronge incessamment, le frappe avec un bruit de bombe, y creuse des golfes, des passes, lui livre enfin un combat de toutes les minutes et de tous les siècles. Pourtant, cette noire forteresse, assiégée sans trêve, est à l'intérieur, comme tout le reste de la Bretagne, la terre de granit à ceinture d'or qu'ont chanté les vieux bardes. Dans les plis qu'on aurait supposés arides, s'épanouit une riche végétation que favorisent les courants atmosphériques. Elle n'empêche pas que l'ensemble de l'île, embrassée du point culminant où se dresse la chapelle Saint-Michel, ne soit d'une tristesse qu'il faut attribuer à l'absence presque complète d'arbres, à l'aspect pierreux de la campagne, morcelé par des murs secs, et à la teinte grise uniforme des habitations. Ce qui étonne surtout, c'est le manque de mouvement. Les chevaux ne sont pas moins rares qu'à Venise. Il en est de même pour presque toutes les bêtes de somme. Aussi les femmes, à qui les travaux de culture restent confiés, tandis que naviguent les hommes, doivent-elles se passer du secours de la charrue? Les vaches, les moutons attachés sur l'herbe courte et percée de rochers qui l'effleurent d'une ombre mélancolique, sont de petite taille. Il semble que la nature minérale se soit développée aux dépens des animaux. Par place, dans le nord surtout, l'herbe manque. Ce n'est plus qu'un rude tapis de bruyère. Les hauteurs sont couvertes de coquillages lancés par la mer en ces jours de fureur. La partie sud, qui formait jadis une autre île que Vauban relia au nord par une digue, est plus fertile. Au lieu des bancs de granit hachés, noircis et comme chargés de rouille, on y voit de petites plages de sable fin, au lieu de ces landes indéchiffrables des tertres bien cultivées. La lame n'arrive qu'amollie par sa lutte contre les brisants. Les gens, les animaux même, sont moins sauvages. Tout le monde parle français, et de jolies maisons à étages entourées de myrtes et de lauriers roses attestent que cette république renferme une bourgeoisie. Dans les salons du sud, qui participent par leur ameublement du navire et de la casse créole, on trouve en effet les petits-fils de ces hardis loups de mer, dont la république fit des officiers afin de combler les vides laissés par l'émigration. De la marine militaire, où s'illustrèrent leurs aïeux, la plupart sont retombés dans la marine marchande. La vie est à peu près la même pour les riches que pour les pauvres. Ils n'abandonnent la mer que lorsqu'elle ne veut plus d'eux. Bréa ne renferme donc la plus grande partie de l'année que des vieillards et des femmes, ce qui explique l'étrange tyrannie qui exerçait au temps dont je parle monsieur le recteur Clèche. M. Clèche était assurément le prêtre le plus austère de tout notre austère clergé breton. Dans le pays, il passait pour un saint, et sous bien des rapports, méritait cette réputation. Les pauvres trouvaient toujours sa porte ouverte. il leur eût donné le dernier morceau de pain que renferma son presbytère avant de songer à dîner lui-même. On prétendait qu'il portait un cilice et dormait sur la pierre. L'aspect de sa personne autorisait ces bruits étranges. Il faudrait chercher sur les rétables d'hôtel des premiers maîtres flamands ou sous les porches de cathédrales gothiques une figure qui se rapprocha de la sienne par l'expression du fanatisme sincère et obstiné. Sa bouche fortement arquée, sa grosse tête brune que le hâle brunissait encore et qui s'enfonçait entre deux épaules athlétiques aux muscles saillants sous le drap rapiécé d'une vieille soutane, veuve le plus souvent de ceinture et de rabat, les rides prématurées de son visage osseux, où deux yeux caves brillaient d'un feu inquiet sans douceur et sans éclat, toute cette physionomie à la fois violente et ascétique rappelait les siècles de fer du Moyen-Âge. L'abbé Clèche vivait dans l'intimité rétrospective de ces druides chrétiens qui, lors de l'invasion saxonne, vinrent de Grande-Bretagne ou d'Hibernie peupler le littoral et les îles. Catholiques et bretons avant tout, ils taxaient de félonie, pour peu qu'on le pressât, du Guesclin lui-même, qui fit passer son dévouement au roi de France avant sa fidélité à la patrie armoricaine. L'indépendance d'un nouveau duché de Bretagne eut comblé ses vœux, mais il cachait le mieux possible ce rêve à ses paroissiens, qui pour la plupart avaient, en parcourant le monde, fait connaissance avec les diverses formes de gouvernement, de manière à ne pas regretter outre mesure Alain le Grand ou Alain Barbe Torte. Ils se bornaient à cultiver en eux, afin de perpétuer les vieilles coutumes, ce respect qui est si fort dans les âmes bretonnes en même temps que cette dévotion particulière au marin qui lui fait suspendre nex voto à la chapelle de la Vierge ou suivre la procession, sa part du navire sur l'épaule. Jamais il n'avait permis qu'un médecin portât ombrage aux sœurs de charité. « Chassez le médecin, disait-il, vous chasserez la maladie. » Les procès se plaidaient devant lui. De toute la puissance de ses poumons, il protesta contre la construction de cette tour géante des Hauts, bâtie au milieu de la mer par un Parisien de génie. Il la qualifiait de Babel et prédit à mesure que s'éleva chacun des 10 étages que le diable soufflerait sur ce monument d'orgueil avant qu'il ne fût achevé. En réalité, le sujet de ses craintes était l'invasion des étrangers curieux, mais son autorité avait des bases trop solides pour qu'aucune influence du dehors pût l'amoindrir. Elle était fondée sur la reconnaissance et l'attachement. Les femmes, les enfants l'aimaient, celles-là parce qu'ils disaient chaque samedi une messe à l'intention de leur mari, de leur fils en péril, ceux-ci parce qu'ils sentaient en lui un allié contre le maître d'école. Quant aux hommes, s'il leur arrivait de s'apercevoir entre deux voyages que la domination du recteur sur leur famille dépassa les bornes raisonnables, ce dernier leur fermait la bouche en comparant sa paroisse à un navire dont il commandait et sauvait au besoin l'équipage. « Ne faut-il pas à bord, disait-il, une volonté unique ?» D'ailleurs, les moins dévots admiraient la force de son caractère et de son poignet, le volume formidable de sa voix timbrée pour le commandement et surtout cet oubli de soi-même, ce désintéressement connu qu'il lui fait refuser de quitter Bréa, fût-ce en échange d'un évêché. Il s'était juré de se consacrer à la sanctification de ce rocher, d'en faire la barque privilégiée qui toucherait au port tandis que sombrera le monde et pour cela tonnait sans relâche contre le progrès en pur breton. Cette langue antique aux sons gutturaux, dont il ne se servait que pour maudire, avait dans sa bouche un accent farouche impossible à rendre. Ses sermons se divisaient en 3 anathèmes, anathème relativement modéré contre le cabaret, anathème contre les livres et contre les colporteurs de ce poison qu'il savait à l'occasion chasser de son île, anathème plus véhément car il s'y mêlait à son insu un sentiment de haine personnelle, crise et vocifération contre les danses ou seulement la musique qui, tentatrice abominable, ne manque jamais d'y conduire. Ce 3e point était dédié à un homme qui, perdu dans la foule, se contenta longtemps de hausser les épaules. L'impatience l'ayant pris un dimanche cependant, il sortit de l'église et n'y rentra plus, ce qui lui valut la réputation d'un excommunié. La vie de Job n'avait ressemblé en rien à celle des autres Bréatais. Tout petit, il fréquentait l'école assidûment et s'était montré, M. Clèche le constatait avec un soupir et une allusion à la chute des anges, le modèle des enfants de cœur. Sa mère, qui était du doux pays de Tréguier, où les belles voix sont communes et dont le dialecte est le plus harmonieux de toute la Bretagne, l'avait bercé jour et nuit de chansons, étant veuve et n'ayant que lui à aimer. Il préférait au jeu de son âge ses naïves mélodies qui, en s'imprimant dans sa mémoire, façonnaient à son insu ses goûts, ses habitudes et son cœur. La musique, à laquelle ne l'avait initié jusque-là que la voix de sa mère, les cloches mélancoliques, les ondes sonores, les échos du passé sous forme de ballades et de complaintes, lui fut révélée tout à fait par la veuve du capitaine baleinier Legorec, la virtuose de l'île. L'ayant entendu jouer du piano, Job en prit une sorte de langueur qui fut attribuée à l'amour. Il ne fit pas, comme les autres, le tour du monde pour gagner de l'argent. Il vendit au contraire une pièce de terre pour faire son tour de France et revint, le gousset vide, mais avec un violon dont il jouait comme Madame Legorec n'avait jamais su jouer de son fameux piano. Bientôt le bruit parvint jusqu'au recteur que le dimanche après vêpres, la jeunesse se réunissait pour sauter sur le crèche Simon devant le menhir mutilé qui servait de trône au violoneux, que le bal, contre lequel il avait les plus sombres préjugés, devenait le plaisir favori de ces jeunes paroissiennes. Il alla une fois écouter l'instrument séducteur et déclara, en se bouchant les oreilles, qu'on ne pouvait entendre de pareils sons sans avoir l'âme ouverte au piège du malin. « Cette ivresse-là, dit-il, est autrement dangereuse que celle du vin. Que dis-je ? Un pareil violon est pire qu'un livre, car il sait dire des choses pour lesquelles il n'y a point de mots. » Les jeunes filles versèrent quelques larmes. Les garçons allèrent prendre leur revanche au cabaret. Mais l'obéissance l'emporta, et on ne dansa plus le dimanche. Seulement le recteur savait trop bien qu'on se disputait aux veillées Job et son violon. Il savait que, la curiosité ayant été excitée par le bruit de cette lutte entre l'Église et l'art, les bourgeois faisaient venir le violoneux. On le demandait à Paimpol, plus loin encore, pour les noces, et des Parisiens de passage avaient loué son talent d'improvisateur en l'engageant à se produire sur un vaste théâtre. Mais Job tenait à la maison de ses aïeux, où lui étaient nés trois beaux enfants. Il tenait au coin de terre qui lui donnait de quoi vivre, n'eût-il pas eu d'autres ressources. Il aimait Bréa, où il était né, il aimait la mer pour mêler à sa chanson celle de son violon, que les vagues elles-mêmes semblaient écouter parfois adoucies et charmées. Le démon qui était en lui continua donc de s'acharner à la perte du troupeau de l'abbé Clèche, au lieu de se précipiter avec ses pareils, comme l'eût souhaité le saint homme dans l'enfer de Paris. Habitant la côte, non loin du passage de l'Arquest, j'allais souvent chasser à Bréa le canard ou la bernache. Je marchais des journées entières le long des grèves, m'arrêtant de temps à autre pour répondre au salut d'un douanier, au sourire calme et patient d'une de ces femmes laboureurs qui se traînent ployées sous le goémon qu'elles sont allées disputer aux vagues pour suppléer à l'insuffisance des autres engrais. D'ordinaire, je faisais halte chez mon ami le guetteur, gardien du bateau de sauvetage, qui jadis à bord dans les récits du quart avait obtenu de légitimes succès. L'auditoire lui faisant défaut désormais, il profitait de toutes les occasions d'assouvir le besoin de loquacité qu'il avait fait surnommer Belle Langue. Adossé à sa porte, son béret de laine rejeté en arrière, et tout en pelant l'oignon que dans son langage imagé il appelait une poule de Provence, il me disait les secrets de ses parages, les noms des navires qu'il avait contribué à sauver, ceux qu'il avait vus périr sans pouvoir leur porter secours, ceux qui s'étaient engloutis dans la nuit loin de tout œil humain, ou bien devant des vieilles batteries délaissées du Rossido, assis auprès de moi sur les canons sans affût qui se rouillent dans l'herbe, il me contait l'histoire belliqueuse de Bréa, les sièges qu'il soutint héroïquement contre les Anglais, tenté par cette excellente position, jaloux de sa marine et la cruauté avec laquelle ceux-ci, alliés de Henri IV contre la Ligue, firent pendre 16 notables aux ailes des moulins. Il ne dédaignait pas non plus les anecdotes locales et longtemps avant de connaître Job Sinclair, j'étais au courant de sa querelle avec le recteur. La première fois que je le rencontrai, ce fut au pardon de Bréa. Ce jour-là, les danses sont de tradition et M. Clèche lui-même n'eut pas osé les interdire, se bornant à regretter la bombarde inoffensive et le naïf Biniou. La grand-messe solennelle avait eu lieu, suivie d'une magnifique procession à travers l'île. Durant plus de 2 heures, on avait vu tantôt apparaître, tantôt s'effacer entre les rochers, à mesure que montait ou descendait le sentier, une longue file de cierges, de bannières, de grandes coiffes à voiles gonflées comme celles d'un navire, d'habits monastiques noirs ou blancs appartenant aux divers tiers ordres dont font partie nombre de vieilles filles. Puis on était rentré à l'église pour les vêpres, mais avant même que celles-ci ne fussent terminées, Job Sinker était à son poste au milieu de la prairie de l'Allégoa, où une fois l'an, Bréa se met en fête. Les danseuses manquaient encore. Déjà, cependant, un cercle nombreux s'était formé dans l'espoir d'entendre les compositions originales qui excitaient à un si haut degré l'enthousiasme des bourgeois de Lille et l'envie des fins musiciens de Paimpol. On lui demandait à la fois celle-ci et celle-là, mais il secouait la tête, songeur, cherchant autre chose. Tout à coup, il préluda. Sur un vieil air bien connu des anciens du pays, il se mit à broder des variations d'abord joyeuses et où éclatait la plus vive fantaisie, puis mélancolique au point d'amener des larmes dans tous les yeux. L'inspiration s'emparait de lui, éclairant de sourire son front haut, un peu dégarni de cheveux, ou gonflant d'émotion sa poitrine. Elle lui venait inégale, le poussant souvent en dehors des règles de l'art, l'élevant parfois au-dessus d'elle. Il lui arrivait, lorsque son violon ne rendait pas bien la pensée qui le maîtrisait, d'imposer silence à l'interprète infidèle et de se mettre à déclamer, car ce ménétrier était poète comme l'étaient ses pareils au temps primitif. Musique et poésie s'entremêlaient inséparables sous ses doigts, sur ses lèvres, l'une provoquant l'autre, la mélodie tenant lieu de rimes parfois, mais sans qu'il y eût jamais désaccord entre le rythme et l'expression, les vers et le chant. Ces zones, on les nommait ainsi, avaient une allure sauvage comme la lande même d'où elles avaient jailli. Si par hasard quelque réminiscence s'y glissait, on y trouvait la preuve d'une connaissance étonnante de l'antique poésie bretonne, avec ses chants guerriers qui jadis excitaient les héros au combat, ses chants amoureux où l'Orient semble avoir épandu ses rêveries et sa flamme. J'aurais voulu noter quelques strophes pleines de la simplicité, de la grandeur épique des Barza Brides. Quand Job en avait trouvé une, il la répétait avec une évidente allégresse et le plus complet oubli de son auditoire, comme s'il l'eût chanté pour lui seul. On l'écoutait pourtant avec ferveur. Il n'était pas jusqu'à l'innocent Franchique qui ne roula ses gros yeux vagues dans un transport de béatitude. Une vieille femme auprès de moi se signait comme à l'église. Le guetteur avait pris une attitude belliqueuse, tous ses visages battus par la tempête et qui portent l'empreinte d'un travail surhumain se détendaient, perdant quelque chose de la dureté que semble leur prêter le roc natal. J'entendis un géant en surroi de toile cirée pour lequel, à en juger par sa physionomie, les influences énervantes tant redoutées du recteur eussent été un bienfait plutôt qu'un danger, dire à son voisin « Quand cette musique-là sonne, on ne pense plus à boire, à rire, à se quereller, les bras vous tombent. » C'est comme si mon imam me parlait de là-haut, disait à son tour la mère en deuil d'un mousse disparu. Plus loin, un jeune couple se tenait debout, muet, les mains enlacées. Ce violon leur avait fait comprendre à eux qu'ils s'aimaient. Ainsi chacun était ému selon son âge et sa nature, car c'est le don du génie de parler en même temps à chacun le langage qui lui convient. J'étais curieux, quant à moi, de savoir ce qui se passait dans l'âme d'une grande fille assise seule à l'écart sur la pente du gazon, dans une attitude grave et recueillie. Bien que les bréatèses, malgré la grossièreté de leurs travaux, soient généralement remarquables par une rare délicatesse de traits et de carnation, il n'y en avait pas une qui pût rivaliser avec celle-ci. Ses lèvres s'entr'ouvraient attentives, découvrant des dents admirables. Ses yeux profonds et changeants comme la mer, fixés sur le vaste horizon, semblaient ne rien voir de ce monde-ci, occupés qu'ils étaient à plonger dans celui que leur ouvrait la musique. Cette belle personne n'avait pas changé contre le bonnet du dimanche la coiffure de travail que les femmes de Bréa ont empruntée aux paysannes anglaises. L'épais bandeau qui sortait du chapeau de paille roussi au soleil, encadrant d'une onde noire la pâleur mate et brune de ses joues, laissait deviner la riche chevelure que les aïeuls de nos filles des îles secouaient jadis au vent avec la lueur des torches lorsque du haut de ces rochers elles mêlaient au fracas des éléments celui de leurs imprécations. « Voilà une beauté, » dis-je au guetteur. « La Janie, oui. Mieux gré, elle ne serait pas mal. » Je m'aperçus alors seulement que la robe qui couvrait cette statue était des plus pauvres, quoique scrupuleusement propre. Mais je ne fus pas de l'avis du guetteur. la parure lui était complètement inutile. Cependant, des essaims de jeunes filles sortaient de l'église en se tenant par le bras. Quelques matelots en congé, les garçons venus pour la solennité des différents points de la côte, les invitaient à danser, et sous l'archet agile du violoneux, qui avait interrompu brusquement ses mélodieuses divagations, pétillait un air de branle. À ma grande surprise, celle qu'on appelait Jenny se leva d'un mouvement craintif, presque farouche. Ses traits, épanouis tout à l'heure, prirent une expression de tristesse morne, et elle battit en retraite, les yeux baissés, tandis que les groupes s'écartaient sur son passage sans que personne lui adressât un mot. « Comment ? » m'écriai-je. « La plus belle ne dansera pas ?»« Elle ?» dit le guetteur stupéfait à son tour. « Et qui donc la ferait danser ? Qu'on la fasse travailler, qu'on l'aide à la bonne heure ? Il faut bien, n'est-ce pas ? » ajouta-t-il avec un mépris tempéré par la compassion. « Qu'elle nourrit son enfant ?» La pauvre créature regardait de notre côté d'un air d'inquiétude, comme si elle eût deviné que nous parlions d'elle. Je baissai la voix, séduite par quelques matelots sans doute. Le guetteur rougit jusqu'au front. Nos marins respectent celles de leur pays. Ceux qu'ils font ailleurs les regardent, mais jamais on n'a osé dire qu'aucun d'eux ait nui à la bonne renommée d'une bréatèse. Il n'y a que les soldats qui en soient capables. Nous avons quelques désœuvrés à la citadelle. Ils passent, on n'entend plus parler d'eux, et dame, si nos filles ne se méfiaient pas. Mais elles se gardent bien toutes seules, soyez tranquilles. Sauf celle-ci. Oh, celle-ci croyait au mariage, et le mariage se serait fait, car son amoureux lui était bien accoré, et il avait à quelques mois près fini son temps, mais vous comprenez que le père de la fille n'a pas voulu. Je ne comprends pas, au contraire. Le père était un brave homme et mon ami. Je l'entends encore dire à sa fille en refusant son consentement. « Tu seras puni par ton péché. » Et elle a été punie. Le guetteur fit un geste expressif qui prouvait qu'il eût été également inflexible à l'occasion. Je restai interdit. Dans quel pays l'honneur est-il compris d'une manière aussi rigide? Trouverait-on ailleurs un père capable de voir la honte uniquement dans la faute commise et non pas dans les suites? Et que dire de cette coupable qui sans murmure immolait à l'autorité paternelle l'avenir de son enfant, le repos de sa vie, qui restait volontairement rivé au sol, témoin de son malheur et de son abjection. Telles étaient les âmes formées par le terrible recteur. Belle-Langue ajouta, comme la conséquence la plus naturelle, qu'une pécheresse ne pouvant être payée autant qu'une honnête fille, les gens qui la faisaient travailler ne lui donnaient que demi-salaire, bien qu'elle fût la meilleure ouvrière de l'île. Mais on lui permet d'amener avec elle sa petite, que les parents ne garderaient pas au logis. L'été, elle la couche sur l'herbe. L'hiver, elle lui fait un nid dans la crèche pour dormir entre les pieds des vaches, et personne ne s'y oppose. La petite se trouve même nourrie chez les gens qui ont bon cœur, quoiqu'il y en ait d'autres qui blâment cela. Moi, je suis garçon, j'ai vu toutes sortes de choses aux quatre points cardinaux. Je n'ai pas de raison pour être bégueule et... Le vieux marin mâcha résolument sa chique. Je fais comme ceux qui ont bon cœur. Tandis que nous parlions, Jenny était allée prendre sur les genoux d'une fillette un bel enfant qui lui tendit les bras. « Vous nous la ramènerez ce soir ?» dit la petite fille, que Belle-Langue m'avait désignée quelques minutes auparavant comme l'aînée des enfants de Job Sinclair. « Oui, » ajouta l'une des matrones qui assistait de loin aux danses, « il faut que ce soit fait aujourd'hui pour toi comme pour les autres, Jenny. Tu souperas à la maison. »« C'est la femme de Job, » me dit le guetteur. On éprouve une sorte de colère à voir un homme d'une supériorité quelconque enchaîné dans des liens apparemment indignes de lui. Cette femme, si maigre et si jaune, elle a été fraîche, mais la plus fraîche se ressent d'avoir mis au monde et allaité des enfants. C'est une ménagère. Elle est plus vieille que lui? Un peu, et Job s'en trouve bien. Sa mère défunte, qui avait de l'esprit, l'a choisi exprès, sachant bien qu'il avait plus de cœur que de tête et point d'économie. Ils sont heureux ensemble. Je crois que les seuls ennuis qu'ils aient jamais eus leur sont venus du recteur. Mais la Sinclair en souffre parce qu'elle est dévote. Une bonne dévote, monsieur. Avez-vous vu comme elle a parlé doucement à la Jenny? Personne n'aurait eu le courage. Il était vrai que chez les Sinclair et chez eux seulement, bien qu'elle allât dans toutes les maisons de l'île, Jeannine Kerlanou trouvait quelque adoucissement à sa condition de paria. On lui témoignait ailleurs soit du mépris, soit une compassion presque aussi offensante. Là, on l'estimait, on l'aimait. Les Sinclair étaient, par suite de la guerre que leur faisait le recteur, des réprouvés en quelque sorte. et il pouvait peut-être pour cette raison se montrer plus indulgent que d'autres. Quoi qu'il en fût, la mère de famille n'avait jamais marqué à Jeannie qu'elle la considéra autrement que comme une honnête femme. Elle ne la louait point de son repentir, à l'exemple de quelques bonnes âmes, mais parfois, la voyant triste à la seule pensée de ce que deviendrait sa fille, si elle venait à lui manquer, « Il ne faut pas te tourmenter de cela, » disait-elle. « Trois enfants ou bien quatre à élever, c'est à peu près la même chose, et Job gagne plus d'argent qu'il ne nous en faut. Ta rainette est un bijou. Tu ne refuseras pas, j'espère, de m'en faire cadeau. » Quand les larmes empêchaient Jeannie de la remercier, elle affectait de ne pas s'en apercevoir, et afin qu'elle pût pleurer sans témoin, l'envoyait au jardin pour quelques commissions, car les cinq airs possédaient, outre le courtil que cultivent tous les paysans bretons, un petit jardin de fleurs. Job avait le goût de toutes les belles choses inutiles. C'était sur le banc de mousse qu'il s'était construit, à l'ombre d'un figuier, que le violoneux improvisait les soirs d'été mieux qu'il ne l'eût fait pour le monde sans autres auditeurs que ses enfants, qui jouaient avec Renette et la Jeannie qui aidait sa femme à quelque travail de couture. Ce beau visage, calme d'ordinaire, où se reflétaient à son gré les émotions d'artiste qu'il agitait lui-même, l'inspirait peut-être sans qu'il s'en doutât. Jeannie lui manquait lorsqu'elle était appelée au sein d'une autre famille, et la pauvre fille, de son côté, pensait beaucoup à ces douces soirées pour prendre courage aux heures plus nombreuses où l'implacable réalité pesait sur elle. Quand le souvenir de son amant mort au loin, en Afrique, avait-on dit, lui revenait à la fois comme un regret et comme un remords, elle se rappelait en même temps les précautions délicates que Job Sinclair avait prises pour lui annoncer cette nouvelle après s'être efforcé de la tenir cachée le plus longtemps possible. Jeannie s'était bien affligée alors, quoique depuis son départ de l'île le séducteur ne lui eût pas donné signe de vie, soit qu'il craignait de la mettre dans un plus grand embarras, soit qu'il l'eût oubliée. Mais aujourd'hui il lui semblait n'avoir jamais aimé personne autant que Job et sa femme. Elle le disait naïvement à cette dernière, qui souriait et l'appelait « ma fille », nom que feu son père n'avait jamais prononcé depuis qu'elle était tombée au rang de servante dans sa maison. Il ne restait à Jeannie que des frères qui paraissaient avoir hérité du courroux paternel. L'orgueil formait le fond du caractère des Kerlano, la première syllabe de leur nom les autorisant à se croire sortis d'un château, d'une caste privilégiée, quoique leur fortune consistât désormais en une barque de pêche. On s'était toujours quelque peu moqué de ces prétentions, on s'en moquait d'autant plus depuis que leur sœur s'était laissée déshonorer par un soldat, et ils ne lui pardonnaient pas cette humiliation. Pauvre Jeannie. Je la vois encore gravir le long escalier du pan où elle allait une fois à la semaine mettre en ordre le ménage du stylite préposé au phare. Elle montait ses marches, taillée à vif dans le granit rouge, d'un pas ferme et dégagé en dépit du vent qui fouettait ses vêtements, de la mousse blanche et salée qui jaillissait en flocons jusqu'à son visage, un vase d'eau douce sur la tête et du bras qu'elle avait libre retenant son enfant contre la hanche. Ce double poids imprimait un balancement régulier à sa taille nerveuse. J'éprouvais une véritable colère de ne pas savoir peindre. Il lui fallut d'ailleurs plus d'audace que je n'en avais alors pour oser l'aborder, lui adresser un mot. Elle passait rapidement, les yeux baissés, pour éviter de voir que personne ne la saluât d'un signe amical, portant toujours suspendue à la main ou accrochée au cou la preuve vivante de sa faute, qui riait et jasait ni plus ni moins que s'il avait eu le droit légitime d'être au monde.